Bonjour. Avant le déclenchement des hostilités le week-end dernier, Kanyabayonga comptait au moins 25 000 habitants. La cité s'est vidée de ses occupants depuis le déclenchement des hostilités. Les acteurs humanitaires ont observé des vagues de déplacés. Plus de 1500 personnes ont fui vers Rutshuru et Kiwanja jusque Vitumbi dans le sud du Kanyabayonga. Le deuxième mouvement de plus ou moins 23 000 personnes a pris le chemin vers le nord, côté Kaina et Kirumba. Un millier d'autres personnes sont dans la nature, autour du parc des Virunga. Les déplacés n'ont rien amené avec eux. Les assaillants ont pillé la cité du Kanyabayonga, comme si cela ne suffisait pas. Les acteurs humanitaires ne savent pas acheminer de l'aide, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Sur notre chapitre, mais plus loin d'ici, de Kanyabayonga et Kinshasa, les médecins continuent leur grève, ils revendiquent l'augmentation de leur salaire et de meilleures conditions de vie. Cela dure depuis 2 mois. Selon eux, le service minimum est tout de même assuré. En même temps, les conséquences sont fâcheuses pour les malades. Certains sont obligés de se tourner vers les centres hospitaliers privés. Autre question à présent, économie dans le Bas-Congo, les exploitants de carburant souffrent pour acheter du brut à Soyo et Cabinda, alors que sur place à Moanda, on exploite le pétrole. Ils demandent que leur situation soit revue parce que les taxes sont énormes. Dans un autre sens du Congo, Kasumbalesa, poste douanier, on observe une recrudescence de la prostitution. Nous essaierons d'en savoir un peu plus dans quelques instants. Au Capiaxo, c'est parti pour aujourd'hui. Alain Goy est à la mise en onde. Walter Mayrini Molondi au micro.
Au Capi à Goma, sur 105.2 FM.
Bonjour, nous vous le disions tout à l'heure, il y a quelques instants, notre confrère Jules Ngala, qui se trouve dans la zone est au sud de Kanyabayonga, nous a donné des précieuses informations sur la situation humanitaire des déplacés par là. Jules Ngala, qui était précisément à la Ruindi, est monté sur une colline, juste le temps d'avoir la liaison téléphonique. Nous l'avons joint tout à l'heure. Jules Ngala, pouvez-vous nous brosser la situation humanitaire qui prévaut autour du Kanyabayonga?
Oui, nous avons rencontré les déplacés déjà depuis mercredi. C'est depuis mercredi que les habitants de la Ruindi, il faut dire que la Ruindi c'est un site touristique qui n'est habité exclusivement que par les familles des gardes du parc national de Virunga. Et la plupart d'entre eux ont commencé à quitter mercredi vers le milieu de la journée pour aller vers le sud. Et les uns disaient qu'ils allaient à Rutshuru, les autres qu'ils allaient à Vitumbi. Et nous leur avons demandé pourquoi, ils ont dit qu'ils venaient d'entendre des tirs un peu plus nourris que d'habitude et qu'ils avaient l'impression que ces tirs venaient en direction de la Ruindi, donc vers le sud de Kanyabayonga, ce qui n'a pas été, ce que nous n'avons pas pu vérifier parce que malgré tout ça, nous-mêmes mercredi, nous sommes allés jusqu'à Kanyabayonga. Nous y sommes retournés encore jeudi, et le même jeudi, nous avons essayé avec l'équipe humanitaire de la MONUC et l'équipe des droits de l'homme de la MONUC toujours, nous avons essayé de vérifier ce qu'étaient devenus ces déplacés. Nous nous sommes rendus à Vitumbi où nous les avons rencontrés et ils nous ont dit que, en tout cas, ils avaient déjà décidé de quitter la région, du moins les familles, mais les chefs de famille, eux, sont restés.
Ils sont restés où sont-ils restés, les chefs de famille?
Les chefs de famille, eux, sont restés à la Ruindi, donc au camp de garde de parc. Ils sont restés, ils ont évacué les familles. Les familles, nous les avons trouvées également, nous les avons trouvées à Vitumbi, et c'est au bord du lac Édouard. C'est un site, ou du moins un port de pêche. Mmh. Et là, ils nous ont dit que nous les avons vus embarquer également et aller en direction du sud, donc vers Rutshuru.
Mais Jules Gala, lorsque vous avez fait quelques missions d'évaluation dans la cité de Kanyabayonga même, comment avez-vous trouvé la cité? Quelle description pouvez-vous nous en faire?
il est difficile de décrire exactement la situation des déplacés, parce que les déplacés eux-mêmes ne sont pas jusque-là. Ok, jusque-là ils ne sont pas encore revenus dans, en fait, en grand nombre dans la cité de Kanyabayonga. Jusque hier jeudi, profitant de l'accalmie sur le terrain, parce que il n'y avait plus de tirs dans la ville, ou du moins dans la cité de Kanyabayonga, ni tout autour, le front s'étant déplacé vers le nord, et profitant surtout du fait qu'il y avait une équipe de la MONUC sur place, la population a commencé à revenir. C'est alors que nous l'avons vu, mais malheureusement pour l'avoir mêlé dans des histoires de pillage, c'est pas ça qui nous concerne, mais l'essentiel c'est que ces mêmes populations nous ont déclaré que là où ils vivent, là où les habitants de Kanyabayonga qui avaient fui et qui ne s'étaient pas éloignés trop de la cité, eh ben ils ont commencé à voir leur malade mourir, parce que pour quelques-uns, parce qu'il y en a un qui nous a déclaré que son papa qui était malade est mort malheureusement parce qu'il n'y avait plus de soins. Nous avons trouvé un agent de la Croix-Rouge de Kanyabayonga qui a déclaré que à l'hôpital, nous sommes allés même à l'hôpital avec la section humanitaire de la MONUC, nous sommes allés à l'hôpital où nous avons trouvé qu'il n'y avait même pas un médecin, il n'y avait même pas un infirmier, et même les malades eux-mêmes avaient quitté la cité, avaient quitté l'hôpital. Nous avons trouvé deux malades qui étaient restés. Il y avait une opérée, une femme opérée, et il y avait un papa diabétique qui ne pouvait pas se déplacer. Donc vous voyez, c'est une situation tout à fait vraiment préoccupante, dans la mesure où il n'y a personne pour prendre en charge les malades. Les malades eux-mêmes ont fui, ils sont allés dans le lieu de refuge où il n'y a personne pour les prendre en charge.
Jérôme Galland, vous avez évoqué tout à l'heure des scènes des pillages. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions là-dessus?
Dans 5 minutes.
Jules Gala, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions sur les pillages?
Bon, écoutez, les pillages, nous les avons observés sur place parce que le jeudi matin, parce que jusque mercredi soir, il n'y avait pas encore de pillages à grande échelle, mais jeudi matin, c'était vraiment des pillages à très grande échelle. Sur place, les habitants que nous avons trouvés en train eux-mêmes de piller, ils nous disent que ce sont les militaires qui ont ouvert les brèches, et eux aussi sont venus. Beaucoup déclaraient qu'ils étaient propriétaires de ces boutiques-là pillées et qu'ils voulaient tout simplement sauver ce qui pouvait encore l'être. Mais malheureusement, personne ne pouvait exhiber les clés de sa boutique. Vous voyez, quelqu'un qui entre par le trou qui a été fait dans le mur par les premiers pilleurs que les habitants présentent comme des militaires, mais au lieu d'ouvrir la porte carrément et entrer et sauver ce qui pouvait encore l'être, il s'introduit lui aussi par le même trou. Donc c'était une confusion totale, nous ne savions pas, nous ne pouvions pas savoir qui est propriétaire et qui est venu pour sauver et qui est pilleur. Mais les pillages sont poursuivis toute la matinée. Malheureusement, les militaires qui étaient sur place ne semblaient pas s'en occuper trop, préoccupés par le front qui était, selon eux, à 7 km plus au nord de Kanyabayonga.
Qui étaient les militaires, les premiers militaires qui auraient ouvert la brèche?
Sur place à Kanyabayonga, ce sont les militaires du 126e bataillon de la 12e brigade, donc de la 8e région militaire. Ce sont eux qui occupent toute la ville, hein, je dis bien toute la ville est occupée par eux. Et s'il y a des pillages qui auraient été faits par des militaires, il n'y a que ces militaires-là.
Jules Gallas, avec ma dernière question, on sait que vous êtes, vous devez redescendre parce que vous êtes monté sur une colline, question d'avoir cette liaison téléphonique. Et ceux qui sont à Rutshuru, est-ce que vous leur avez parlé? Quel type de témoignages vous ont-ils donné?
Non, à Rutshuru, il faut qu'on y arrive. Nous n'y sommes pas encore. Nous sommes dans les parages de Kanyabayonga pour continuer notre travail. Les seuls déplacés que nous avons pu, avec lesquels nous avons pu nous entretenir, sont ceux que nous avons rencontrés sur la route au moment où nous allions encore vers Kanyabayonga, vers l'Arvindi et vers Kanyabayonga. Ils nous ont déclaré qu'ils avaient fui les tirs. Dans quelles conditions ils se trouvent, pour l'instant, nous ne savons encore rien, parce que nous ne savons pas encore contrôler une telle situation, étant encore au niveau du front.
Voilà. Jules Gala, merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes non loin de Kanyabayonga, dans la plaine de la Arvindi. Merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations, et surtout, faites très attention à vous.
Merci beaucoup, Antoine.
À bientôt, Julien.
Voilà, on va rester dans la zone, cette description que Julien Gala vient de nous faire. La situation humanitaire est préoccupante. Nous avons réussi à joindre tout à l'heure un acteur humanitaire. Il s'agit de Monsieur Bernard Lefebvre. Il est chargé de l'appui aux urgences au bureau de coordination des affaires humanitaires. Bernard Lefebvre, il y a une autre vague de déplacés qui s'est dirigée du côté du nord de Kanabayonga. C'est précisément vers Kaina et Kirumba.
Les populations étaient parties sur Kaina, Kirumba essentiellement. Mardi, mercredi était à Kaina et Kirumba pour voir effectivement ces déplacés. Ils sont effectivement très nombreux. Ils ont fui de manière préventive. C'est-à-dire qu'ils ont anticipé qu'il y avait un risque énorme d'affrontement, et donc ils ont préféré fuir, sachant que la population de Kanyabayonga n'en est pas sa première expérience malheureuse, puisque Kanyabayonga était une ville clé stratégiquement, clé pour les positions soit du sud, soit du nord.
Alors, Monsieur Bernard Lefebvre, est-ce qu'il y a une réponse humanitaire urgente qui est en discussion maintenant au niveau de la communauté humanitaire?
Il y avait déjà des choses qui avaient commencé. D'abord parce qu'il y avait quelques ONG qui étaient sur place à Kaina et à Kirumba. Il y avait déjà des déplacés, il y avait déjà eu, puisque dans les opérations contre les FDLR il y a 3 semaines, ces opérations ont elles aussi généré des déplacements de population, donc il y avait déjà l'amorce de quelque chose qui était en train de se faire. Malheureusement, il y a maintenant 2 jours, en fait mercredi, il semble qu'il y a eu un changement un petit peu dans les positions. En tout cas, il y a eu des affrontements mercredi, qui ont obligé les acteurs humanitaires, y compris la mission de Tcha, de quitter Kaina et Kirumba un petit peu plus rapidement que prévu. Et aujourd'hui, il semble qu'il y ait beaucoup d'énervement au sein de la 8e région militaire, ce qui fait que l'accès est très 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 difficile. Il semble qu'une partie de la population de Kaina ait également quitté la ville de Kaina. Maintenant, là, ça reste encore des spéculations.
Oui, mais alors, Bernard Lefebvre, les acteurs humanitaires ont donc du mal à acheminer une quelconque aide humanitaire, même à continuer à évaluer la situation qui prévaut maintenant. Qu'est-ce que vous préconisez faire concrètement?
Alors, d'abord, c'est d'espérer que la situation se stabilise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ça, que la discipline et toute la discipline de la junte militaire nous permettent et permettent aux humanitaires de travailler. Nous avons au niveau des commandements de très bonnes relations, et ceux-ci sont tout à fait favorables à voir les humanitaires venir travailler, venir en secours de la population. Malheureusement, ces instructions qui sont données ne sont pas toujours relayées au niveau de la base, et nous avons vécu un certain nombre d'incidents ces derniers jours qui sont un petit peu qui sont pas forcément pour rassurer les militaires. On a eu jusqu'à même si c'était pas exactement à ce endroit-là, mais toujours dans le territoire de Lubero, on a eu un militaire qui a tiré en l'air parce que l'expatrié voulait pas lui donner une cigarette qu'elle n'avait pas d'ailleurs. Donc on a peut-être des petits problèmes comme ça, et c'est là on a un gros travail à faire avec l'agence militaire pour pouvoir effectivement avoir accès. Celle-ci est nerveuse en ce moment. On entend beaucoup d'informations qui témoignent de cette nervosité. Donc voilà. Maintenant, dès que c'est un petit peu stabilisé, on va essayer de pouvoir redescendre sur place et assez rapidement, puisqu'il y avait déjà des amorces qui étaient en cours. On va avoir des évaluations pour pouvoir commencer. Déjà, je pense au niveau de la santé, on va pouvoir faire des choses assez rapidement, dès que c'est stabilisé. Et puis des distributions, il y a déjà des stocks qui sont sur place, même s'ils seront largement insuffisants. Donc la communauté humanitaire s'organise, mais là pour l'instant elle ne peut pas faire grand chose.
Monsieur Bernard Lefebvre, ça va être ma dernière question. Où est-ce que vous vous situez maintenant?
Alors, en fait, je suis rentré de coma hier et je suis aujourd'hui à Kinshasa.
Ah, ok. Merci beaucoup, Bernard Lefebvre. Je vous remercie de nous avoir fourni ces informations et vous souhaite de continuer à faire un bon travail de planification pour le bien de ces milliers de déplacés qui attendent votre, votre assistance.
C'est quand même important peut-être à dire, hein, c'est que ces affrontements sont commandités, hein, ne pas ceux qui les manipulent ou qui les demandent d'un côté comme de l'autre, hein, il n'y a pas de prise de position dans cette déclaration, génère, c'est la population qui trinque, c'est la population congolaise qui trinque, c'est elle qui paye et elle paye comptant.
Et voilà, on vient d'entendre Bernard Lefebvre, chargé de l'appui des urgences humanitaires à Otia.
Okapi, le Congo à l'écoute.
On va rester dans la zone pour faire un complément d'information de la vague des déplacés qui sont dirigés du côté Kaina Kirumba. Il y en a même qui sont arrivés à Lubero vers Butembo. Et pour en parler, nous avons Étienne Mouindo en ligne depuis Butembo. Étienne, bonjour.
Oui, bonjour Walter.
Vous êtes rendu tout récemment à Kaina et Kirumba, c'est hier que vous y étiez. On rapporte que le grand nombre de déplacés s'est dirigé de ce côté-là. Dites-nous, dans quelles conditions ces déplacés sont-ils arrivés à Kaina, Kirumba, vers Lubero et Butembo?
Oui, donc Walter, ces déplacés qui sont évalués à présent au nombre de 45 et 50 000 donc, sont venus de Kaina, et plutôt des Kanyabayonga, du Boulotoa et même des Kinyondo. Et ils arrivent en fait fatigués, ils transportent, ne transportent rien, sauf peut-être un matelas ou bien une chèvre. Bon, en fait, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir prendre l'essentiel, hein, notamment des casseroles ou quelque chose pour se couvrir. C'est donc dans un état vraiment de dénuement total qu'ils arrivent dans les cités de Kaina et de Kirumba, et même plus au nord.
Oui. Étienne Mouindo, comment sont-ils accueillis? Est-ce qu'il y a une organisation qui est faite localement, notamment vers Kaina, Kirumba ou plus au nord pour accueillir et se déplacer?
En fait, jusque mercredi, ils étaient quand même pris en charge par les ONG, les humanitaires, tels que MSF France, mais aussi Solidarité, PAM et même OCHA. Mm. Et donc, ce sont ces humanitaires qui les ont pris en charge, notamment, on avait déjà ouvert une clinique qui fonctionnait depuis mardi au niveau des MSF France pour soigner les déplacés.
C'est dans quelle ville?
Il y avait aussi un centre nutritionnel au sein de MSF France et pour accueillir les mal nourris.
Oui, c'est dans quelle ville qu'il y a ces centres nutritionnels et ces dispensaires?
Oui, c'est au niveau de Kaina que fonctionne ce centre nutritionnel et cette clinique. Et malheureusement, avec la reprise des combats, que mercredi, à partir de 3h du matin, et les humanitaires ont dû se replier jusqu'à Beni, et puis à partir de là, ils comptent encore une fois se réorganiser pour venir en aide à ces milliers donc de déplacés venus du sud, notamment des Kanyabayonga et des Mulotoa.
Est-ce que vous avez rencontré quelques déplacés? Quels témoignages vous ont-ils donné?
En fait, les déplacés que j'ai pu rencontrer sont vraiment, ils aimeraient en fait être soutenus. C'est ici qu'ils demandent la fin des hostilités pour que les ONG, les humanitaires puissent leur venir en aide. Vous savez, bon, ils sont actuellement accueillis, ils sont dans les familles d'accueil, mais cela ne suffit pas. Ils ont besoin de couvertures, ils ont besoin de logements, ils ont également besoin de semences, c'est ce qu'ils disent. Mais dans un premier temps, c'est d'abord les logements, les soins médicaux, les couvertures et la nourriture. Et PAN commençait déjà à leur distribuer quelque chose, mais avec la reprise des combats, on ne sait pas, et ils sont en fait actuellement abandonnés à leur triste sort.
Voilà, Étienne Moïndo, merci beaucoup pour ces précisions. Restez branchés sur l'évolution du développement, du déploiement, si vous voulez, de l'assistance humanitaire. Nous aurons encore besoin de vous pour nous faire le point. Merci beaucoup et bonne journée à Butembo.
Merci.
Au revoir. Ok, puis action 081 890 68 90, c'est notre numéro d'appel. Pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant sur internet, ils peuvent envoyer leurs messages, leurs suggestions, leurs préoccupations, leurs questions à action@radioocapi.net. Nous allons boucler la boucle sur ce sujet de qui prévaut à Kanyabayonga, la situation humanitaire. C'est ce que nous abordons dans ce magazine Okapi Action. On devrait avoir dans les minutes qui suivent le responsable de la section humanitaire à la MONUC au niveau des Goma, parce qu'ils étaient dans une mission conjointe d'évaluation à Kanyabayonga même et dans les villes plus au sud de Kanyabayonga. On devrait avoir Idriss Saba dans les minutes qui suivent, des questions des auditeurs qui arrivent à plutôt Mouyamba, Théodore, qui nous appelait de Mbujimaï, qui constate qu'à Mbujimaï, on a envoyé le général Obedi. Mbujimaï dit, on apprend note. Nous voulons la paix, souligne Mbujimaï Théodore de Mbujimaï, sans autre commentaire. Et puis Mbujimaï Théodore, toujours lui, qui voulait, qui a abordé une autre question qui a rapport avec les taxes, mais bon, c'est pas les sujets du jour, mais puisque Mbujimaï l'a fait, nous avons eu des problèmes avec la DGI, tout le monde a fini par payer les taxes et à s'acquitter à partir du syndicat, les choses vont de l'avant aujourd'hui grâce au syndicat. Mais bon, voilà des questions de point de vue par respect aux auditeurs. Je rappelle que nous sommes à plein cœur sur la situation humanitaire qui prévaut à Kanyabayonga et de part et d'autre dans le sens nord comme dans le sens sud. Il est possible maintenant de joindre Monsieur Idriss Saba. Monsieur Idriss Saba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la section humanitaire à la MONUC, vous êtes en poste à Goma. Vous avez, je suppose, été dans la mission de la MONUC qui s'est rendue tout récemment. Vous êtes rentré hier soir du Kanyabayonga et de cette zone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus sur les conditions des déplacés que vous avez rencontrés?
Ben écoutez, pour ce qui concerne les déplacés, c'est une situation... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation très préoccupante parce qu'on n'a pas vu la grande partie du mouvement des déplacés. Parce qu'on est arrivé à Kanyabayonga le 15 au matin, on a trouvé que la cité était vide de toute sa population, qui était estimée à 25 000 personnes. Mm-hmm. Donc on considère déjà que 25 000 personnes sont dans la forêt ou sur l'axe nord vers Lubero. Mm-hmm. Alors que sur l'axe sud, nous avons croisé quelques 1500 déplacés et qui seraient reçus dans des familles d'accueil sur l'axe de Rutshuru, vers Mushumbi, un petit village de pêcheurs situé sur le lac Edouard.
Mm-hmm. Alors,
donc, pardon?
Oui, je vous en prie.
Donc, la situation humanitaire est préoccupante, c'est ce qu'on peut dire, mm-hmm. dans la mesure où tous ces habitants, toutes ces populations sont soit dans des forêts, soit en route pour chercher refuge quelque part dans des villages qui ne sont pas en état de guerre.
Voilà. Le plus gros problème pour la communauté humanitaire, c'est de avoir accès à ces personnes, à un groupe de personnes déplacées, parce qu'il n'y a pas encore un cessez-le-feu formel. Est-ce que au niveau de la MONUC, notamment, il y a des contacts par rapport à l'ouverture, par exemple, d'un couloir humanitaire?
Exactement. C'est ça la préoccupation majeure, parce que l'accessibilité n'est pas possible à cause des combats qui se poursuivaient depuis hier là-bas dans cette zone. Et pour essayer d'ouvrir un couloir humanitaire, d'abord, c'était le feu systématiquement. Le chef de bureau s'emploie à cette tâche au niveau de Goma. Et il vient de partir rencontrer les autorités militaires nouvellement affectées ici pour essayer de voir comment coordonner un cessez-le-feu rapide et organiser en conséquence une réponse humanitaire.
Est-ce que vous avez quand même une idée sur une prévision d'un kit humanitaire d'urgence? Ça pourrait être quoi par rapport aux besoins de se déplacer?
Bon, il est clair que la réponse humanitaire ne va pas faire défaut si les conditions de sécurité sont réunies. Les kits, les médicaments, les vivres éventuellement, et tout ce dont il est possible de donner, ça sera fait. Mais la condition préalable, c'est la sécurité des intervenants et aussi la sécurité même des déplacés. Parce qu'il y a plusieurs militaires aussi qui sont en débandade, qui seraient en débandade dans la forêt, et donc on ne sait pas comment ils vont se comporter vis-à-vis de ces populations.
Mais pour les 1500 que vous aurez rencontrés à Vitumbi, c'est cette cité de pêche, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ces 1500 déplacés?
Oui, les 1500 ne sont pas tous à Vitumbi. Ils sont à la fois à Vitumbi, à Kiwanja et peut-être même à Rutshuru et à Ruindi. Mmh. Donc ces 1500 sont déjà reçus par des familles d'accueil. Ce qu'on a fait, c'est on a visité toutes les cités où ils ont trouvé refuge. On a demandé aux administrateurs locaux, aux chefs traditionnels, d'organiser des recensements pour qu'on puisse connaître le nombre exact des personnes qui ont reçu des accueils dans ces villages et essayer de, à partir des listes compréhensibles qui sont établies, essayer de donner une assistance qui pourrait se faire à partir de Goma. Ça, il n'y a pas de problème majeur.
Voilà. Monsieur Idriss Abba, ce qu'on peut retenir, c'est que actuellement, au niveau de la MONUC, on s'emploie à obtenir un cessez-le-feu d'abord, ensuite un couloir humanitaire pour faciliter le passage aux acteurs humanitaires de pouvoir acheminer l'aide vers les déplacés.
Oui, ça c'est exact. Et en plus, cet après-midi à 16h, nous avons une réunion élargie au niveau de Ouattara avec toutes les agences des Nations Unies et des ONG. Et je vais leur faire le briefing de ce que j'ai vu à Kanyabayonga. Et on va ensemble voir ce qui est possible de faire, même en attendant le cessez-le-feu, sur les actes qui sont à l'abri du conflit qui est en cours en ce moment.
Voilà, Monsieur Idriss Sabba, je rappelle que vous êtes responsable de la section humanitaire à la MONUC. Vous êtes en poste à Goma. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite plein succès dans la réalisation de vos tâches.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Ok, direction le deuxième sujet du magazine d'aujourd'hui. On va changer de chapitre sur une question plutôt des sociétés. Nous nous rendons dans le sud-est de la République démocratique du Congo, Kasumbalesa, la frontière entre la RDC et la Zambie. En tout cas, nos reporters de passage dans cette cité douanière ont constaté que la prostitution y était en vogue. Outre les professionnels déjà connus dans la cité, tant des professionnels de sexe, des jeunes écolières de moins de 15 ans exercent aussi l'activité. Certaines prostituées ne se soucient même pas de protéger leurs relations sexuelles, selon nos reporters. Conséquence évidente de cette activité, c'est le risque d'être exposé aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH-SIDA qui décime beaucoup de gens, en tout cas plus de 4 millions déjà cette année. Vous avez suivi le rapport de l'ONU SIDA pour cette année, et ici ça prend de l'ampleur, la cité est en danger. Nous allons donc en parler avec Georges Kamodiova qui est ici à Kinshasa. Georges Kamodiova, bonjour.
Bonjour Walter et bonjour à tous.
Mais voilà, vous vous êtes rendu donc à Kasumbalesa, vous avez constaté ce phénomène. Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi il y a cette recrudescence de la prostitution à Kasumbalesa?
Je dois tout d'abord dire, Walter, que la prostitution à Kasumbalesa n'est un secret pour personne. En fait, tout le monde connaît qu'il y a la prostitution à Kasumbalesa, mais si ça prend encore de l'ampleur, c'est que ça commence à être inquiétant. Mmh. Et il y a même des autorités qui s'en inquiètent. Et pour revenir à votre question, on avait rencontré Madame Ngoi Muloko, elle est chef de la cellule Femmes et Familles. Donc, disons que la cellule Femmes et Familles représente la division de la femme et famille à Kasumbalesa. Mm-hmm. Alors, elle disait même que la prostitution à Kasumbalesa était devenue un métier. Et elle nous disait que parmi les causes, évidemment, il y a la conjoncture, si on peut dire, les agents Sodimico, anciens Sodimisa, n'ont pas de bonnes situations depuis un certain temps, des salaires impayés ou reçus régulièrement. Alors, leurs enfants se livrent à la prostitution et à partir des 16 heures-là, vous voyez des petites filles qui sont en train de circuler dans les rues et ces filles-là sont en train de piéger, selon les propres termes de Madame Loco, en train de piéger les camionneurs. Les camionneurs, sont en fait les conducteurs des grands véhicules qui arrivent à la frontière-là et qui amènent les marchandises venant de la Zambie ou de l'Afrique australe. Ouais. Et donc, ce sont là les quelques causes.
Les éléments en matériel, mais George, comme je vois, on le sait très bien qu'il y a beaucoup d'hôtels à Kasumbalesa. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ce foisonnement des petits hôtels à moindre frais, ainsi de suite?
Oui, tout à fait. La multiplicité des hôtels à Kasumbalesa est un fait à ne pas négliger. La cité a au moins 50 000 habitants et compte plus de 35 hôtels. Certains patrons d'hôtels hébergent des jeunes filles qui se prostituent à leur compte, donc des proxénètes, si on peut le dire. Et certaines femmes divorcées se joignent à ce groupe pour leur survie. Il y a même des prostituées qui disent que l'étape d'hébergement est passagère, elles sont là quand elles auront une bonne vie et vont quitter l'hôtel, tout ça. Et il y a même une prostituée qui nous a raconté que elle, avant d'être mariée, elle était là quand même, quand elle était élève, avant d'être mariée, elle était dans cet hôtel-là, et puis elle a fait son mariage, elle a divorcé après avec son mari, et elle est revenue dans cet hôtel-là, donc c'est un lieu d'hébergement tout à fait efficace pour elle.
Quand vous lui parliez, elle vous a pas piégé?
Effectivement, dans de telles conditions, en fait ça c'est son métier, mais moi j'étais pas là pour être piégé.
Elle a essayé de vous piéger quand même.
Ouais, mais tout à fait, d'ailleurs quand elle m'a vu venir, quoi que c'était un client.
C'était un client. Oui. Mais quand vous avez sorti le micro, waouh.
Ah ouais, quand j'ai sorti le micro, il m'a dit, mais vieux, mistez ou quoi, bien tout pas qu'à y vibouler.
Il faut payer l'argent avant qu'elle ne vous parle.
Oui.
On peut noter que l'une des conséquences de cette prostitution, c'est la propagation rapide d'abord des maladies sexuellement transmissibles et pire, du VIH et SIDA, surtout si les relations sexuelles ne sont pas protégées. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de cette pandémie à Kasumbalesa?
Ah ouais. Et il faut d'abord dire, Walter, que les prostituées, les professionnels de sexe, elles disent employer toutes les méthodes pour se mettre à l'écart du VIH-SIDA. Et il y en a qui nous disent qu'elles utilisent les préservatifs, mais que ce sont les petites filles souvent qui viennent... les petites filles écolières, disons, qui viennent et qui n'ont pas des relations sexuelles protégées. Voilà. Et l'une des conséquences, effectivement, de cette situation, c'est le VIH-SIDA. Et nous avons rencontré Mme Mimi Kasumbo, qui est l'infirmière titulaire du centre de Kasumbalesa-Douane. Elle nous a dit que, en fait, le taux de SIDA là-bas doit être élevé, mais il n'y a pas de données chiffrées parce qu'il n'y a pas un centre de dépistage. Et les données qu'elles ont là-bas, ce sont des données qui proviennent peut-être des tests que les gens viennent faire en ce qui concerne la donation du sang. Enfin, les donneurs de sang,
c'est obligatoire.
Quand les donneurs de sang viennent, alors elle nous a dit, sur 10 donneurs de sang, il y a 3 ou 4 qui sont séropositifs.
Ah, c'est déjà un indice très sérieux. Mais du côté des camionneurs, parce que c'est eux apparemment les clients privilégiés de ces professionnels de sexe, est-ce qu'ils sont sensibilisés sur l'utilisation du préservatif, sur les modes de prévention de la lutte contre le VIH-SIDA?
Il faut dire que les camionneurs, d'abord, viennent là et c'est pas pour un long séjour. Donc, quand ils viennent, c'est peut-être pour une nuit. Ils font leur affaire et puis ils rencontrent des petites filles, ils vont dans des hôtels et c'est fini. À savoir s'ils sont sensibilisés, mais il y a quand même un membre de CTE. CTE, c'est le comité technique d'encadrement qui fonctionne à Kasumbalesa, qui nous a dit qu'ils étaient en train de faire des efforts pour que les camionneurs soient sensibilisés parce qu'ils font assez d'efforts pour que les prostituées elles-mêmes soient sensibilisées. Alors leurs partenaires aussi doivent être sensibilisés. Mais ces camionneurs-là refusent souvent de prendre les préservatifs quand ils ont des relations sexuelles avec les prostituées de Casson-Valais.
Alors, Georges, s'il faut que nous nous en tenions au chiffre que l'infirmière Mimi Kassoumbou vous a fourni par rapport aux donneurs de sang, donc si sur 10 donneurs de sang à Casson-Valais, 3 ou 4 sont séropositifs, c'est une situation assez grave. Qu'est-ce qui est fait pour arrêter la machine infernale?
Oui, pour arrêter d'avoir la machine, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a la CTE, mm-hmm. Donc en fait c'est
le comité technique d'encadrement.
Le CTE est en train de prendre même une connotation d'ONG. Ah, oui. Alors, ils sont en train de faire des sensibilisations dans les écoles, même dans les rues. Il y a M. Lamba qui nous disait, qui est du CTE, qui nous disait même qu'ils utilisaient des mégaphones. Pour circuler dans les rues et dire, parce que de toute façon ils ne peuvent pas empêcher la prostitution, c'est ce qu'ils nous avaient dit, que ça prenait de plus en plus de l'ampleur.
Parce qu'ils distribuent les préservatifs.
Oui, ils distribuent les préservatifs qu'ils obtiennent des ONG internationales telles que
Médecins
sans frontières et même de l'UNICEF. Donc ils distribuent d'abord les préservatifs et puis ils passent dans les écoles et même à la douane même là avec des mégaphones en train de crier, et surtout pour la journée mondiale de lutte contre le sida, ils ont amplifié cette sensibilisation.
Ça va être ma dernière question. On a parlé des prostituées, on a parlé de certains clients parmi lesquels les camionneurs, on a parlé on a fait allusion à cette infirmière qui a donné des chiffres, et puis ce travail du comité technique d'encadrement, mais côté des autorités au niveau des Casson-Valais, parce que parmi les facteurs qui encouragent, si vous voulez, la prostitution à Casson-Valais, il y a la présence d'autant d'hôtels, 35 et d'autres maisons d'épaces. Que disent les autorités par rapport à ces maisons d'hébergement qui encouragent la prostitution?
Oui, l'une des autorités que nous avions rencontrées, c'était M. Georges Moulongo, il est chef de parquet secondaire de Casson-Valais. Lui nous disait que c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de plainte, c'est-à-dire les filles ou les familles des filles qui vont se prostituer dans les hôtels ne se plaignaient pas. Donc il n'y avait pas assez de plaintes, et lui disait que pour arriver à traquer par exemple les patrons d'hôtels ou les proxénètes, il fallait avoir une plainte des autorités, et que les autorités des Casson-Valais devaient d'abord, dans un premier temps, essayer d'évaluer combien au fait d'hôtels. Parce que les chiffres que nous donnons là de 35, c'est pas un chiffre tout à fait exact.
Ce sont les hôtels visibles,
ouais,
mais les maisons de passe non visibles où il n'y a pas de panneau.
Il y en a beaucoup. Voilà. Donc pour M. Georges Moulongo, chef de parquet secondaire de Casson-Valais, il fallait que l'autorité viennent, l'autorité des Casson-Valais, l'autorité civile, viennent donner un nombre et des objectifs, traquer ces maisons-là pour ne fût-ce que essayer de combattre cette activité dans ce sens.
Et voilà, c'est à suivre, Georges Kamoudioura. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs qui avaient l'habitude de vous suivre à partir de Lubumbashi qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous en direct de nos studios de Kinshasa. Merci beaucoup pour ces informations.
Merci, Walter.
Ok. 081-890-6890, c'est notre numéro d'appel. Il y a eu un auditeur tout à l'heure qui nous a appelé de Kisangani, son nom Marcel Kalinda. Il voulait avoir des précisions sur l'identification des militaires qui sont à Kanyabayonga. Si ce sont des Rwandais ou quoi, il faut dire la vérité, voulait-il savoir. Notre confrère Jules Ngala, qui s'est rendu sur place, a constaté qu'il y avait une majorité d'éléments de bataillon de l'ancien mouvement du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, Goma. Nous avons soumis la question à la division de l'information publique et à MONUC. La réponse, il est probable que des renforts en armes et en munitions aient pu venir de l'Est. Il y a également un faisceau d'indices que des troupes rwandaises sont entrées au Congo. La MONUC continue ses investigations pour obtenir des preuves formelles de cette présence. Ok, direction, nous continuons ce magazine. Dans quelques instants, nous vous proposerons la deuxième partie. Des réactions, des suggestions, vous le savez, comment le faire? 081-890-68-90, si vous nous suivez à partir de la RDC. Si vous êtes en direct dans le monde, 00-243-81-890-68-90. Si vous êtes maintenant dans un cybercafé, écrivez à action@radio-ukapi.net. On va se retrouver dans quelques instants. Okapi Action, nous le disions en titre, en début de ce magazine. Ça fait 2 mois, jour pour jour, que des médecins sont en grève. Ils ont organisé un service minimum dans les hôpitaux. Sylvie Sona s'est rendue dans quelques hôpitaux, notamment l'hôpital général de Kinshasa. Les conséquences sont déjà néfastes. Il y a des malades qui souffrent beaucoup et qui n'ont pas d'assistance. On va faire le point dans quelques essais. Et puis autre chose qui arrivera, dont on va vous parler tout à l'heure dans ce magazine, ça sera évidemment la situation des pétroliers à Moanda qui vont de l'autre côté de la frontière, notamment à Soyo, pour acheter du carburant, alors qu'à Moanda on peut produire du carburant. Que pasa en el mundo? C'est cette question, qu'est-ce qui se passe par là à Moanda? C'est ce qu'on va essayer de savoir avec notre confrère Jody Techama qui a fait beaucoup de, qui est en train de creuser, creuser la réalité quotidienne de la vie telle qu'elle va dans le Bas-Congo. Des réactions, des suggestions, vous savez comment faire, je vous le rappelle quand même, 081-890-6890, ou si vous êtes maintenant dans un cybercafé en train de nous suivre, de par le monde, de n'importe quel coin du monde, faites très rapidement action@radioucapi.net et on va recevoir votre participation. À bientôt. Ok, Action, nous revoici pour la deuxième partie du magazine des proximités sur Radio Ukapi, du magazine de la vie comme elle va en République démocratique du Congo. Nous en arrivons à cette autre situation qui est aussi dans l'humanitaire, tout de même, il faut le reconnaître. C'est depuis 2 mois que des médecins sont à grève à Kinshasa. Selon les médecins, le service minimum est assuré. Entre-temps, les conséquences sont très fâcheuses pour les malades. Certains malades sont obligés de se tourner vers les centres hospitaliers privés. Certains de ces centres privés ne sont pas à la portée de tout le monde parce que les prix sont exorbitants. Autant les malades comprennent que les médecins sont dans leur droit en observant cette grève, mais ils ne comprennent pas par contre pourquoi cette grève dure longtemps. Ils se demandent, les malades donc, pourquoi le gouvernement n'y réagit pas en répondant aux revendications des médecins. Près de 2 mois après le lancement de cette grève des hommes en blouse blanche, des questions se posent. Où est-ce qu'on en est avec cette grève qui paralyse les secteurs sanitaires? Qu'est-ce qui est fait pour y remédier? Qu'advient-il des malades qui ne peuvent pas être soignés à cause de ce mouvement de grève? Sylvie Sona s'est rendue dans quelques hôpitaux de Kinshasa, notamment l'hôpital général de référence de Kinshasa. Sylvie, bonjour.
Bonjour, Walter.
Voilà, le micro est ouvert, j'espère, finalement. On est d'accord, Jean-Noël? Ok, merci beaucoup. Alors, on a parlé du service minimum par rapport à ce mouvement de grève. Commençons par là. Est-ce que vous avez constaté, observé le fonctionnement de ces services minimums?
Nous nous sommes effectivement rendus, comme vous l'avez dit, Walter, à l'hôpital général de Kinshasa. Et directement, on nous a conduits vers le service des urgences, au pavillon 4 et au pavillon 20. Et nous avons vu un médecin qui était de permanence. Nous lui avons parlé, elle, puisque c'était une femme, nous a dit qu'effectivement le service minimum était assuré, mais nous avons vu un seul médecin pour beaucoup de personnes malades. Mais en sortant de ce service, nous avons rencontré des gardes malades qui nous ont dit que leur malade n'était pas soigné comme il se devait. Écoutez-les d'ailleurs. L'État a l'occasion de mettre des solutions. A l'occasion de mettre des solutions, puisque l'hôpital général, la maman, il y a une grève, il y a une grève, il y a une grève, il y a
une grève. Pour la petite petite sœur, il y a une opération. Le docteur a une grève. Vraiment, il y a une grève, il y a une grève. parce que le roi bango baza na grève boye moye ba malade pe baza soa malamu exact donc baza soigner bien te parce que bango ba na grève baza sala
ah wa vraiment les toza botwa na pasi mingi donc grève eza makasi donc ba minga na bazo mona ba na ba salité ba mingi baza na ba réponse ba moye échographie mto pe sa ba réponse azaké mingi ba loba kete ba kan se souba na mabumu ba na baza mabumu ko fongo ba médecin ba bike ba na grève gouvernement azwa kan sa ba na mabumu la ksin ba opération msezo le kake mabumo zo ya kufungwa makane tinga na zaki na kawa na mwana libumo kufungwa mi siko fa ba sa city secondaire mwemba simba e ezaki po bango bazana na grave siko mwana tika libumo kufungwa mwana mwasi gouvernement fala tela soki likamba ko bongsa afuta bango po ba simba bana po biso totuni bango ba biboke koloba na gouvernement siko biso toloba ndeni bana bazama mabumo kufungwa makuna mama so bango ba lobike suine ti likambo ezali ya pasi ba bengi ko boke ko benga bango bazoya azote la kabaka urgent oezo ya kuna na salle d'urgence wana oezo ya tangu ba nini me kokota pena boye ko simba muta maladi bazo simba yete balobi so ba simbie ba minga nga mususu ba osa nini ba ko silika.
Voilà, vous avez entendu des gardes malades et même des malades parmi eux. Et quelque part, cette femme a dit, il y a eu réponse à échographie, mouton copé, ça a eu réponse à échographie azaté. Je pense qu'elle voulait dire, il n'y a personne pour faire l'interprétation du cliché de l'échographie. Ça, c'était pour les auditeurs qu'ils soient dans le contexte. C'est comme si j'étais avec toi, mon enfant. Bon, Sylvie, mais si on revient sérieusement sur la question, avec ces témoignages, cette grève est très sérieuse. Et on constate, après avoir entendu ces témoignages, c'est ce que les personnes qui ont payé les frais, c'est d'abord les malades. Mais au regard des informations que vous avez recueillies auprès de ces gardes malades, Sylvie, est-ce que vous avez soumis ces réclamations, ces doléances auprès du médecin directeur de cet hôpital, docteur Diabeno, que nos auditeurs connaissent?
Effectivement, Walter, je leur ai parlé et écoutez d'ailleurs l'entretien que nous avons eu ensemble.
Il y a grève, c'est pas une grève blanche, le médecin ne peut pas faire une grève blanche. C'est contre la déontologie médicale. Ce qui fait que le service minimum est assuré. Qu'est-ce qu'on attend par service minimum? Ça veut dire que tout patient qui arrive en urgence doit être soigné. Tout patient qui était déjà hospitalisé, il y a alors un service qu'on appelle des permanences, parce que ce patient qui était déjà hospitalisé, il peut y avoir un problème, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, dans les services minimums, on a les urgences et la permanence qui, en principe, doivent être assurées.
Mais selon certains malades que nous avons vus, ils nous ont affirmé que, malgré qu'ils étaient en situation d'urgence, on leur demandait de rentrer à la maison, parce que les médecins étaient en grève.
C'est-à-dire que, quand tu arrives à la salle d'urgence, on donne les premiers soins et que le cas ne nécessite pas une hospitalisation, mais tu rentres à la maison, même quand il n'y a pas de grève, c'est comme ça que ça se passe. Même quand il n'y a pas de grève, quand un malade arrive à la salle d'urgence, il y a des cas qu'on garde à la salle d'urgence, il y a des cas qu'on hospitalise, il y a des cas qui rentrent. Ça a toujours été comme ça, même sans grève, c'est comme ça que ça se passe.
Ne croyez-vous pas que la mesure de grève qu'observent les médecins peut avoir comme conséquence la négligence de certains médecins qui savent qu'ils sont de garde, comme ils sont en grève, négligent un peu le travail? Parce que nous avons visité quelques pavillons, nous n'avons pas vu de médecins sur place.
Moi je viens, je fais les tours dans toutes les salles des urgences pédiatriques. Médecine interne, chirurgie, on va du côté des gynéco, les médecins sont là. Ils sont là. Bon, maintenant, quand vous parlez des pavillons, vous n'allez pas aller dans un pavillon trouver un médecin qui est là dans le pavillon et dire, moi je suis ici pour, non?
Au niveau des salles d'urgence.
Les médecins sont là. Hein? Sauf si ces médecins se déplacent. Par exemple, ce matin, j'ai vu un médecin, qui est docteur Kansès, qui avait fait la garde, et que je vois ici au pavillon 10. Mais il est là, avec docteur Nzundu. Ils disent qu'ils attendent que les remplaçants soient là. Hein? Et les médecins, ça veut dire qu'ils sont là s'il y a un problème, ils les appellent. Donc, c'est ça. Les médecins, ils peuvent se déplacer pour prendre quelque chose ou pour d'autres besoins. Donc, il n'est pas là, on dit, mais bougez pas à la salle d'urgence.
Docteur Diabeno, médecin directeur de l'hôpital général de Kinshasa et président de l'Ordre national des médecins. Enfin, là, il parlait en tant que médecin directeur de l'hôpital général de Kinshasa. Bon, on vient de l'entendre, il dit qu'il vérifie tous les jours si les médecins qui sont de permanence sont présents à leur poste et qui n'avaient jamais eu à se plaindre d'eux. Mais vous-même, Sylvie, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Parce qu'on a senti dans certaines de vos questions une insistance. C'est comme si vous aviez quelque chose que vous avez remarqué.
En fait, lorsque je me suis rendue à l'hôpital général de Kinshasa, dès que les malades m'ont vu, ils ont presque accouru vers moi, parce que apparemment, il y règne un climat assez malsain. Mmh. Les gardes malades, même les malades, ne se sentent pas très à l'aise parce qu'ils savent que les médecins sont en grève et ils ont un peu peur. Les médecins, ils savent que ils disent eux-mêmes, les médecins sont dans leurs droits. Mais d'entrer en grève, mais les malades, nous qui sommes malades, on doit être soignés. Ils ne comprennent pas ça. Chacun est assez égoïste pour lui-même, vous comprenez. Chacun ses intérêts. C'est vrai que les médecins sont en grève. C'est normal qu'ils entrent en grève. Mais les malades, eux qui sont là, ils ne comprennent pas ça. Autre chose, le service minimum est peut-être assuré, mais les malades qui viennent en consultation ne sont pas reçus. Imaginez-vous que quelqu'un qui vient en consultation parce qu'il a mal, il n'est pas très mal, mais il a mal. Parce que ce n'est pas un cas urgent, on ne le reçoit pas. Mais la crainte serait qu'en ne se faisant pas soigner, ce mal s'empire. Et que ça devienne assez grave et bref.
Plus grave que s'il avait été pris en charge.
Il se présentera en urgence, qu'on puisse le perdre parce que il n'a pas été pris en charge à temps. C'est ça la crainte. Ce qui est dangereux, comme vous le dire, c'est que s'il n'a pas les moyens de se rendre dans un centre hospitalier, il doit recourir à un centre public, mais il ne peut pas aller en consultation. Et lorsqu'il y va en urgence, si le mal est déjà, le trou c'est déjà, vous comprenez un peu, Walter?
Oui, oui, je comprends, sans que vous me lisiez, les auditeurs comprennent aussi. Mais ce mouvement de grève qui a commencé il y a à peu près, il y a plus de deux mois, on peut
bientôt
dire,
bientôt deux mois,
où est-ce qu'ils en sont avec leurs négociations, ce mouvement de grève qui continue? Parce que bon, c'est une procédure du droit du travail, il y a des choses qui évoluent. Est-ce que vous avez quelques informations?
Selon les dires du docteur Diabeno, le gouvernement leur a promis de trouver très bientôt une solution à leurs problèmes. Mais le docteur Mankoy, qui devait d'ailleurs être là tout à l'heure au studio, qui vient de s'excuser parce qu'il a une assemblée générale justement en rapport avec ce problème, mais il accepte tout de même qu'on puisse le recevoir par téléphone. Donc on va le joindre tout de suite. Lui qui suit le dossier pour tous les médecins de la ville de Kinshasa, lui je pense qu'il pourra répondre à toutes nos préoccupations.
Voilà, chers auditeurs, nous aurons en direct dans quelques instants Dr Mankoy, président de la délégation syndicale des médecins. Vous pouvez préparer vos questions. Faites déjà comme Pierrot Kiwa Kizalou. Excusez-moi, cher auditeur, si j'ai mal prononcé votre nom, je vais avoir des précisions tout à l'heure. Vous êtes en deuxième doctorat en médecine, vous avez réagi déjà. On va en parler tout à l'heure avec Dr Mankoy en direct au téléphone. Je rappelle le numéro, c'est 081-890-68-90. Sylvie Sona, merci beaucoup. Et une hésitation que j'ai notée chez vous tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses terribles que vous avez vues dans les hôpitaux.
Tout à fait. Quand on va dans un centre hospitalier, on rentre toujours avec quelque chose dans le cœur, c'est normal.
On attendra les réponses de Dr Mankoy dans quelques instants. On vous propose quelques notes de musique en attendant surtout vos questions, vos réactions au 081-890-6890. Mais voilà, au Capi Action, on va garder des minutes précieuses pour discuter de cette question de la grève des médecins avec nos invités. J'en étais sûr tout à l'heure, cher Pierrot, qui est auditeur, qui nous écoute de l'université de Kinshasa. En tout cas, on a mal écrit votre nom. Alors, je viens d'avoir des précisions. C'est Pierrot Kimvoidi. Voilà. J'espère que cette fois-ci, j'y suis. Et très cher monsieur Pierrot, docteur Pierrot, parce qu'il est un deuxième doc. On va parler de votre question tout à l'heure, parce que docteur Mankoy est en ligne. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur, vous êtes président de la délégation syndicale. Merci de consacrer ce temps avant la grande assemblée générale que vous allez présider tout à l'heure. Mais vous avez suivi les doléances de certains malades. Des malades comprennent que vous avez le droit d'aller en grève, mais ils comprennent pas qu'ils sont en train de souffrir terriblement parce que certains des médecins qui sont des gardes sont un peu négligents.
Allô, je ne vous comprends pas très bien.
Docteur Mankoy, je disais qu'on a interrogé des malades qui comprennent votre revendication, mais qui ne comprennent pas que certains médecins qui sont des gardes soient un peu négligents.
Non, je ne pense pas. Ça, c'est une interprétation des personnes qui sont là. Parce que j'espère que le malade qui arrive à l'hôpital, ils sont reçus. Vous pouvez passer, vous allez voir que le malade qui vient avec des problèmes, ils sont reçus dans nos salles d'urgence. Et les malades qui sont hospitalisés, il y a des médecins qu'on a désignés pour assurer la permanence du jour. C'est-à-dire voir des problèmes qui se posent aux malades qui sont dans les patients et les résoudre. Si on parle d'un problème de négligence, je ne pense pas. Mais comme il ne manque jamais dans une société des gens qui s'expriment, comporte un peu autrement. Je ne peux pas nécessairement dire que tout le monde assume cette responsabilité comme nous le demandons. Mais en fait, les malades hospitalisés sont bien suivis et les malades qui nous viennent, c'est la raison pour laquelle ils sont hospitalisés. Depuis qu'on a commencé la grève, je ne recevais pas les malades. Il n'y aurait pas de malades en hospitalisation. Pour autant qu'il y a aussi des malades qu'on est en train d'opérer. Ce qui signifie que le service minimum fonctionne. Et nous sommes là et nous avons des médecins qui surveillent ça dans chaque département.
Alors, docteur Mankoy, je soumets à votre appréciation la réaction de M. Pierrotti Vadim, voilà, il est en deuxième doctorat en médecine, il dit ceci, je cite, « Les médecins, ce qu'ils font n'est pas bien, nous sommes déçus de ce qu'ils font, d'où ils ne respectent pas le serment d'Hippocrate, quel exemple nous donne-t-il ?» Fin de citation. Voilà la réaction d'un futur médecin.
Merci pour ce futur confrère qui va venir dans la confrérie. Et je dois tout simplement dire que la société ne doit pas s'accrocher au serment d'Hippocrate. Si la société s'accroche au serment d'Hippocrate, il faut que la société fasse le moyen qu'on respecte aussi le testament d'Hippocrate. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous respectons le serment d'Hippocrate. Si nous ne respectons pas le serment d'Hippocrate, nous ne pouvons pas organiser les permanences, les gardes et les urgences. Nous allons abandonner le malade et faire une grève blanche. Nous avons un service minimum parce que nous avons une promesse de la part du gouvernement et nous attendons que les choses aillent mieux pour que le médecin ait leur part et ils vont reprendre le travail. Nous n'avons pas fait une grève blanche. Pour autant, ces garçons ne peuvent pas se plaindre de médecin qu'il est un peu dessus. Non. Quand il viendra dans la confrérie, lui au moins, il viendra commencer avec ce que nous négocions aujourd'hui. Il ne viendra pas comme ces aînés qui sont incapables de louer une maison, incapables de s'assumer. Donc ça, c'est une réaction étudiante. Il va voir la réalité quand il terminera. Nous l'attendons.
Ben voilà, docteur Mankoy, mais peut-être il y a des auditeurs qui ne sont pas informés du pourquoi de votre grève. Mais soit dit en passant, si on peut baisser sensiblement le poste récepteur radio qui est à côté de vous parce qu'il nous fait des retours. Vous, avec le téléphone, vous allez m'entendre parfaitement bien. C'est ça qui vous empêche de m'écouter. On le coupe carrément ce son-là. Et je vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement pourquoi vous êtes en grève?
Je ne vous capte pas très bien, je n'ai pas bien capté la question.
Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une radio, un poste récepteur dans la salle où vous êtes. Coupez carrément le son, il faut l'éteindre carrément, vous allez mieux m'entendre.
Oui, ben je suis sorti d'ailleurs.
Ok, bien, très bien docteur. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pourquoi les médecins à Kinshasa sont à grève? Parce qu'il y en a qui ne sont pas très bien informés.
Nous les avions déjà avancé. Nous avions dit que les médecins sont en grève parce qu'ils réclament un statut spécifique pour les médecins des services publics de l'État. Et nous avions négocié avec le gouvernement. Et le problème maintenant, c'est que les médecins attendent que ce statut spécifique soit entériné par le gouvernement. Malheureusement, les conseils des ministres ne se tiennent pas régulièrement. Ce qui pose un problème dans les chefs de médecins qui se disent, est-ce que vraiment le responsable, l'homme politique de ce pays, pense à résoudre nos problèmes? Parce que dans un pays, on se pose plusieurs problèmes. Ce n'est pas seulement le problème de médecins, même la situation maintenant de sécurité du pays. Mais le conseil des ministres ne se réunit pas. On peut passer 2-3 mois sans qu'un conseil des ministres se réunisse. Voilà comment les médecins réagissent. Maintenant, les médecins réagissent seulement contre... cette situation qui fait que le conseil des ministres ne se tient pas. Si le conseil des ministres se tenait, vous avez un statut qui contient 99 articles. Si bien mon ami, oui, de ces articles, qu'on va faire des amendements. Alors qu'on fasse ces amendements, qu'on adopte formellement par le conseil des ministres et le médecin va reprendre le travail. Au moins, ils auront l'assurance que le document a été validé par le gouvernement et ils vont maintenant travailler dans un cadre juridique bien connu et bien précis.
Oui, on a vu tout récemment des images de votre délégation auprès du vice-président chargé des questions socioculturelles. Est-ce que vous avez eu l'impression que le dossier évoluait correctement et que d'ici là vous aurez des réponses attendues à vos revendications?
Oui, donc ce serait vraiment... une ingratitude si je ne reconnaissais pas ce qui s'est passé. Nous reconnaissons que le vice-président Zahid Ngom a amené le dossier à un niveau tel que c'est appréciable. Le dossier évolue normalement. Mais le problème qui se pose ici, le maintien se rappelle toujours les négociations de Mboudi. Vous voyez, c'est ça, ce qui pose des problèmes. Les choses devraient se faire le plus facilement, le plus naturellement. Quand on arrive à des problèmes de grève comme ça, les choses perdent aussi leur sens tout à fait naturel. Donc le dossier évolue normalement. À mon entendement personnel, je pense que le dossier évolue normalement. Mais le problème qui se pose, c'est que le conseil des ministres ne se tienne pas, ce qui pose un problème dans les chefs de métier qui se disent « Mais nous allons lever la grève alors que le gouvernement n'a pas formellement entériné. »
Peut-être une question d'information, docteur Mankoy. Combien touche un médecin aujourd'hui? Et dans vos revendications, vous voulez qu'un médecin touche combien au minimum?
Alors, aujourd'hui, faire que le médecin débutant son traitement de base est de 6 250 francs. 6 250 francs. Bon, nous avions voulu que ça soit indexé. Et vous savez, le problème de salaire, c'est un problème dynamique qui évoluera avec le temps. Mais l'idéal pour nous, c'était que le jeune médecin touche au moins 3 500, l'équivalent de 3 500 $. Mais vous savez que dans la situation actuelle du pays, dire qu'aujourd'hui le gouvernement nous donnera les 3 500 $, c'est qui s'occupe. Mais c'est un problème qui restera dans les négociations. Nous allons partir et les jeunes gens qui vont prendre la relève vont négocier progressivement avec le temps et avoir l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Nous ne vivons pas en l'air, nous vivons sur terre et nous connaissons aussi les difficultés de notre pays.
Mais à quelle concession minimale êtes-vous en mesure d'avancer pour que finalement les malades ne puissent pas beaucoup souffrir?
Bien, nous avions déjà trouvé, comme on dit, avec le gouvernement, un consensus. C'est que le gouvernement, pour le moment, va étudier les problèmes de traitement de base, les problèmes de logement, les problèmes de transport, dans un cadre général de tous les agents de l'État. Mais, pour le moment, le gouvernement a accepté de payer aux médecins une prime de risque. Alors, c'est sur cet accord-là que nous avions clos les négociations et nous attendons seulement la réalisation de cette promesse-là.
Cette prime de risque s'évaluerait à combien, docteur Mankoy?
Non, pour le moment, c'est un peu difficile parce que nous avions demandé. Et c'est justement cela que le médecin dit, il doit voir des visites, ce qu'on va leur donner. Alors, nous attendons que les choses sortent parce que ici, quand vous avancez un chiffre et quand on peut, ce n'est pas ce chiffre-là, ça crée déjà des années dans la communauté.
On annonce une assemblée générale de médecins dans quelques instants. Docteur Mankoy, c'est vous qui allez présider cette assemblée-là. Est-ce qu'on peut savoir la communication que vous allez faire à vos confrères médecins?
Non, en fait, nous allons montrer aux médecins de la section de l'hôpital général de Kinshasa, l'effort du gouvernement, l'effort que le gouvernement a fait dans ce sens-là, leur donner la nouvelle sur l'évolution du dossier et leur proposer que son Excellence, Monsieur le Vice-président, nous a demandé d'observer une trêve. Alors, c'est de la réponse de l'Assemblée générale que nous allons amener d'abord au conseil provincial qui se tiendra samedi à midi au siège de l'ordre des médecins. Comme ça, si toutes les sections de la ville de Kinshasa se mettent d'accord, en ce moment-là, nous allons donner un message nouveau au gouvernement.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer avoir une trêve dans cette grève des médecins?
C'est ce que le vice-président a demandé et il est de notre devoir en tant que dirigeant du syndicat et qui était aussi négociateur avec le gouvernement, mais nous expliquer ça à notre base et que notre base, si elle trouve que c'est fondé, adhère à cette demande du vice-président. C'est une autorité qui nous demande ça et nous devons transmettre ça à notre base afin que notre base se décide, comme ça nous lui répondons officiellement.
Voilà, on va donc rester branché sur les dossiers. Ça va être ma dernière question. Enfin, en réalité, elle n'est pas de moi, c'est plutôt d'un auditeur qui s'appelle Godé Iboukani, nous appelait de Kassavubu. Voilà, il raconte une situation. Je cite, docteur, à votre intention, oui. Une fois Godé Iboukani a été à l'hôpital général. Son épouse a mis au monde et on lui a forcé la main pour acheter un produit dont on a multiplié le prix par 5 à l'hôpital général. Et Godé Iboukani conclut en disant que des médecins sont devenus carrément des commerçants avides d'argent, c'est inadmissible. Fin des citations. Voilà la réaction d'un auditeur, Godé Iboukani de Kassavubu. Comment réagissez-vous?
Oui, bon, ça ce sont des cas tout à fait particuliers et parfois regrettables. Mais la réalité de fait est que, est-ce que c'est généralisé? Parce que si c'est généralisé, nous serons interpellés et tout ça. C'était un cas tout à fait isolé et nous n'avons pas été contactés pour ça parce que nous avons aussi le devoir d'interpeller ces médecins, surtout par notre cellule de l'ordre de médecins, pour qu'on l'entende et si ça nécessite, qu'on transfère son dossier au conseil urbain, on le transfère au conseil urbain. Mais nous n'avons pas jusqu'ici été saisi d'un dossier pareil. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a problème de disponibilité. Si à côté ici, toutes les pharmacies, parce que ici nous fonctionnons avec les pharmacies qui sont dans les environs, n'ont pas ces médicaments. Ici, c'est un médicament est spécifique à une spécialité et que seul le médecin spécialiste dans ce domaine-là, en ce moment-là, le malade est obligé d'aller chercher ce médicament-là chez ce médecin. Mais en réalité, la plupart des médicaments, nous les trouvons en ville ici. Il y a quand même des pharmacies bien achalandées en ville et il y a aussi des pharmacies qui acceptent de faire la commande à l'étranger quand le médicament n'est pas ici. Ça, ce sont des cas regrettables que nous ne pouvons pas vraiment dire que c'est bien fait. Ça, c'est malheureux.
Une autre question vient d'arriver, c'est de Tonton Fouabouna, il nous appelle de Kinshasa. Voici sa question, je cite, « Est-ce que vous avez vraiment le souci de notre nation? Ce sont les pauvres qui souffrent dans les situations comme celle-ci. Le gouvernement, selon Tonton Fouabouna, sont fous parce qu'ils ont de l'argent pour aller se faire soigner dans les hôpitaux privés. » Fin de citation. Votre réponse, docteur Mankoy?
Oui, je pense que c'est ça la conception peut-être de l'homme politique et du gouvernement. Mais et la population, et le gouvernement, et nous les médecins, nous devons tous savoir que nous sommes de potentiels malades. Et ça dépend de la maladie. Celui qui pense que lui ne se sera pas soigné par les hôpitaux de la République démocratique du Congo, mais il y a des maladies qui ne peuvent pas lui permettre de prendre l'avion et aller se soigner à l'étranger. Il est du devoir du gouvernement d'arranger les hôpitaux. Même dans les statistiques, vous trouverez que les hôpitaux, les polycliniques, les hôpitaux privés et tout ça n'arrivent pas à prendre en charge toute la population. Et dans les polycliniques privées et consorts, on ne prend pas des indigents, les gens et les nécessités. Ça, c'est aussi un problème. Donc, l'État a le devoir d'aménager, de réhabiliter ces hôpitaux, d'arranger les conditions de travail et de prendre le personnel, qu'il soit infirmier, qu'il soit médecin, qu'il soit pas, en charge correctement. En ce moment-là, l'État peut imposer une tarification que nous appellerons tout à fait sociale. Mais dans les conditions actuelles, les hôpitaux ne bénéficient pas des subsides. Donc, nous sommes obligés de concevoir une politique dans nos hôpitaux pour que ces institutions fonctionnent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que depuis 1988 et qu'on ne donne pas des subsides à des hôpitaux, comment ces hôpitaux fonctionnent tant soit peu? Hein? C'est-à-dire, il faut maintenant concevoir que comment nous pouvons fonctionner, comment nous pouvons avoir un peu d'argent pour donner des primes à ces personnels pour l'encourager à venir. Mais vous allez me trouver que c'est ridicule. Quand un infirmier qui se dépense jour et nuit, à la fin du mois, vous lui donnez une prime de 2000 francs congolais, vous croyez que c'est vraiment à la hauteur du service rendu. C'est ça le problème. Il faut que l'État prenne ce personnel-là en charge. En ce moment-là, ce personnel-là doit travailler pour prendre en charge le malade qui arrive et qui n'aille pas d'autres soucis, des délogements, des problèmes, des enfants qui ont chassé des minéraux à l'école, tout ça. Tout ça, c'est de la faute du gouvernement. Il a le personnel, il va accompagner le personnel et il aura les soins de qualité.
Voilà, docteur Mankoy, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de la délégation syndicale des médecins. Je vous remercie d'avoir retardé la préparation de l'Assemblée générale que vous devez présider dans quelques instants pour vous soumettre à nos questions et à celles de nos auditeurs.
Merci,
pour ça, nous vous en remercions aussi beaucoup et espérons qu'il sortira quelque chose de bénéfique pour les malades de cette Assemblée générale qui est tant attendue. Au revoir, docteur. Au Capi Action, nous allons nous rendre à Moanda, non loin de l'océan Atlantique, pour joindre notre confrère, Jody Kachama. Jody Kachama, bonjour.
Bonjour, Walter.
Et voilà, nous avons appris grâce à vous que les revendeurs des produits pétroliers à Moanda voient leur activité dépérir. Ils se plaignent de beaucoup de choses et leurs activités sont au ralenti. Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Ok, mais avant cela, je voudrais d'abord dire que Moanda est un territoire frontalier à l'Angola, délimité aussi par l'océan Atlantique. C'est un territoire de 170 000 habitants. Moanda connaît comme activité principale l'exploitation pétrolière. Alors, il y a une firme internationale française appelée Perenco qui vient d'ailleurs de racheter les actions des Chevron Texaco qui exploite le pétrole onshore, c'est-à-dire sur la terre ferme. C'est depuis l'année 2001. Alors, il y a aussi la société Perenco Mioc qui exploite le pétrole offshore, donc dans l'océan. Alors, d'après les informations recueillies, ces sociétés n'accordent pas tellement d'emplois aux ressortissants de Moanda. Et cette situation a favorisé le développement du secteur informel d'exploitation du pétrole. Alors, nous avions appris que plus de 60 000 personnes ici à Moanda et d'autres venues, viennent acheter du pétrole, vont acheter du pétrole en Angola. Donc ils traversent soit l'océan, ils prennent des embarcations pour aller acheter des produits pétroliers à Soyo, en Angola, et d'autres vont acheter à la frontière avec Cabinda. Ces produits pétroliers sont dans des fûts de 200 litres, soit dans des bidons de 25 litres, et c'est embarqué après achat dans des gros camions en destination des Matadi, Kinshasa, Kikwit, et Chikapa où ils sont écoulés. Alors j'ai lu un document signé depuis le 5 novembre 2004 par le maire de Boma, Joachim Kwabi Mabiala, qui fixe la nouvelle taxation à l'importation au trafic frontalier de l'essence du gazoil et du pétrole lampant. Donc l'essence actuellement à la frontière, la taxe s'élève à 42 $. Le gazoil à 44 $ et le pétrole lampant à 28 $. Alors les revendeurs se sentent vraiment asphyxiés et ils se sont plaints auprès de l'administrateur du territoire qui a transmis leur doléance à la hiérarchie. Alors une légère réduction a été accordée sur les taxes douanières et les tarifs actuels se présentent de la manière suivante. Donc l'essence est passée de 42 $ à 34 $, le gazoil de 44 $ à 35 $ et le pétrole lampant de 28 $ à 21 $. Donc malgré cela, les revendeurs des produits pétroliers de Moanda se sentent toujours étouffés. En plus des taxes exorbitantes, ils se plaignent aussi de multiples postes de contrôle qui sont érigés un peu partout. Par exemple, il y a un poste de contrôle à Makaisamba, à l'entrée de Boma, et à l'entrée de Matadi et à l'entrée de Kinshasa. Donc, ils se sentent vraiment asphyxiés, comme le mot l'indique.
Mais Jody Kachama, est-ce que l'autorité compétente au niveau de Moanda a apporté ou essaie d'apporter des réponses à toutes ces revendications?
Bon, d'après, nous avons parlé avec les autorités locales à Moanda, ils nous ont dit que cette décision émane du ministère de l'énergie. Donc c'est le ministre même de l'énergie, mine et hydrocarbures qui a pris cette décision d'augmenter les taxes aux frontières pour, n'est-ce pas, décourager l'informel, n'est-ce pas, et puis ramener l'informel au formel. C'est-à-dire mettre fin à une sorte de concurrence déloyale qui existe entre les revendeurs et puis les sociétés pétrolières. Alors, c'est dans le but de protéger ces entreprises qui vendent des produits pétroliers tels que FINA et autres et qui payent des taxes à l'État. Alors, on apprend en outre que l'État congolais n'a jamais signé des accords sur l'importation du carburant avec l'Angola, d'où cette pratique est considérée comme une fraude par les autorités, d'où il faut décourager ces trafics par l'augmentation des taxes ou la surtaxation.
Dodi Keshama, on va peut-être finir par là. Est-ce que vous avez noté ou observé quelques conséquences de cette surtaxation, de la multiplicité des taxes et autres trafics que dénonce la corporation de revendeurs de produits pétroliers à Moanda dans la vie de tous les jours?
Oui, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure au début, l'importation du carburant est une activité qui fait vivre beaucoup de gens, beaucoup de familles ici à Moanda.
Au moins 60 000 personnes.
Oui, au moins 60 000 personnes. Et cette activité a généré plusieurs autres activités connexes, je peux dire ainsi. Donc, il y a des transporteurs qui vivent de cela, il y a des jeunes gens qui poussent les fûts, qui vivent de cela, il y a des jeunes gens qui... des gens qui ont des dépôts, il y a des piroguiers aussi qui aident les revendeurs à traverser de l'autre côté du Soyo, qui vivent de cette activité. Et il semble que la plupart même des hôtels ici à Moanda, la cité, reçoivent beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs pour acheter le pétrole. Vous voyez donc, c'est, disons, à ce jour que toute la chaîne est vraiment paralysée. Et je suis passé hier à côté du marché central de Moanda où sont entreposés plusieurs fûts. Donc c'est déplorable, les activités tournent au ralenti et d'autres revendeurs se sont déjà lancés dans d'autres activités telles que l'agriculture et autres parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus rien à gagner dans l'exploitation du pétrole.
Ah, Jody Keshama, ça va être ma dernière question au-delà de toute cette activité, parce que on avait eu à un moment donné Emmanuel Imbanda qui était à Moanda il y a de cela peut-être 3 mois. Aujourd'hui, vous y êtes 3 mois après. Est-ce que vous avez peut-être remarqué certains essor ou une certaine croissance économique, c'est-à-dire des infrastructures qui sont construites ou une vie en impact de l'exploitation du pétrole sur la vie à Moanda? Non.
Laissez-moi vous dire que il y a des sociétés qui exploitent le pétrole ici à Moanda, telles que Perenco, mais cette exploitation pétrolière ne profite guère aux habitants de Moanda. Laissez-moi vous dire d'abord que Moanda est une ville où la vie est vraiment chère. La vie est très très chère ici et c'est une ville qui est enclavée. Donc enclavé, il y a l'océan de l'autre côté et puis il y a la route qui mène jusqu'à Boma et dans un état de délabrement avancé. Donc la population d'ici ne profite en rien de l'exploitation pétrolière. Je sais qu'il y a une commission qui s'est organisée, les notables d'ici se sont organisés, ils ont eu dernièrement des entretiens avec les responsables de sociétés pétrolières, Perenco. Alors celle-ci a alloué une enveloppe de $210 000 pour des œuvres sociales, par exemple la construction des écoles et des dispensaires. Mais jusqu'à présent, on ne sent pas vraiment cet impact au niveau de la population. Donc Moanda, laissez-moi vous dire que Moanda n'a que deux routes asphaltées. Donc la route qui mène jusqu'au port de Banana et celle qui mène jusqu'aux installations de la saucisse. Donc le reste c'est des terres, des routes entrebattues et la vie est vraiment difficile ici. Donc la population d'ici ne profite en rien, disons, de l'exploitation pétrolière.
Bien, Jody Keshama, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'annonce aux auditeurs que nous aurons tout à l'heure un invité à la personne de Monsieur Bazatati, qui est président de l'association des importateurs des produits pétroliers, en tout cas au niveau de Moanda. Pour l'heure, on vous remercie de nous avoir donné ces informations. Et anticipativement, déjà, Jody Keshama, joyeux Noël et bonne année.
Merci beaucoup, Walter. Au revoir.
Au revoir. Au Capi Action, on va recevoir le dernier invité du magazine d'aujourd'hui, en la personne de Monsieur Bazatati, qui devra être en ligne. Est-ce qu'il est en ligne, Jean-Noël? Non, pas encore. Bon, on va nous l'envoyer tout à l'heure. Il est temps pour moi de faire de prendre en considération des réactions de quelques-uns de nos auditeurs aujourd'hui. Ils ont réagi sur des sujets différents, celui de la recrudescence de la prostitution à Kasumbalesa. D'abord, Mbouyamba Théodore de Bougimaï, qui réagissait de la façon suivante, que ce n'est pas seulement à Kasumbalesa que la prostitution se développe, mais aussi en Bougimaï, au marché Djibidi. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, recommande M. Mbouyamba Théodore, et mettre en place un service pour évacuer toutes ces prostituées, surtout les plus jeunes qui ont entre 10, 11 et 12 ans. C'est le point de vue de Mbouyamba Théodore de Mbujimaï. Et puis Roger Mbaki de Kinshasa. Il constate que les organisations qui s'occupent des actions contre le sida s'intéressent plus aux grandes villes. Roger Mbaki souhaite et demande à la fois, leur demande à la fois ces ONG, de faire beaucoup plus attention aux petites villes ou les coins les plus reculés du pays pour les aider à bien combattre c'est quoi le sida. Fin des citations, c'était la réaction de M. Roger Mbaki réagissait par rapport à cet autre sujet. Bon, on peut parler évidemment du sujet du sida tout le mois de décembre parce que c'est le mois du sida. On peut dire qu'il y a un auditeur qui a voulu nous soumettre sa réaction. Sans transition, je vais vous proposer de l'écouter.
Je suis M. Pierre Divine, je suis à Matadi et j'aimerais ici intervenir pour parler de la situation qui passe à l'antenne maintenant concernant les multiples tarcasseries dont les petits pétroliers font l'objet dans le domaine de lubrifiants. Le reporter vient de le dire tout à l'heure que cette décision est venue du ministère de l'énergie et des hydrocarbures qui tente à décourager le secteur informel. Mais l'État oblige, à part le découragement, des importateurs à petite échelle, il ignore qu'il perd plus de 500 000 dollars chaque mois dans ses tronçons. Parce que lorsque l'État augmente les prix des taxes et que les gens ne sont plus à mesure de payer, carrément ce sont les agents, les collecteurs d'impôts qui s'enrichissent. Ici à Boma, par exemple, je peux vous relater d'autres choses. Ici à Boma, il y a beaucoup de barrières. À Makaïsamba, il y a une barrière. À Boma, il y a une barrière. À Matadi, il y a une barrière. Mais dans chaque barrière, pour faire passer un véhicule de 50 filles, vous devez donner au moins 400-500 dollars. Et cet argent va où? Si l'État pouvait jouer de sa politique, de baisser un peu la taxe douanière, notamment à l'importation, ces gens seraient à mesure de payer. Que l'État ne se contente toujours pas de protéger les opérateurs économiques, mais qu'il regarde aussi ce qu'il peut gagner.
Merci beaucoup, cher auditeur. Je rappelle que vous nous avez appelé de Matadi par rapport notamment à cette question de l'exploitation des hydrocarbures à partir de Moanda. Et on va poursuivre sur la même lancée, cette fois-ci avec Monsieur Bazatati. Monsieur Bazatati, bonjour.
Bon, à notre niveau, je crois que nous avons beaucoup de difficultés à cause du prix des... La douane, bon, vous savez que la douane maintenant, c'est vraiment très élevé par rapport à tout ce que nous faisons maintenant. Donc, nous avons beaucoup de difficultés. Alors, c'est pourquoi nous cherchons à ce qu'on puisse un peu vraiment revoir la tarification douanière. Parce que le produit pétrolier que nous importons en face de nous, parce que nous sommes ici à Moanda, dans les Bas-Congo, bon, en fait, nous importons le pétrole des Soyo et des Kabinda, sont tous toutes des agglomérations angolaises.
Oui, oui.
Alors maintenant, le problème c'est quoi? Donc, nous avons des difficultés parce que le prix de la douane est très élevé et puis vraiment, nous ne trouvons plus notre compte dans tout ce que nous faisons. Bon, vraiment, l'activité est tarissante à vous.
Alors, Monsieur Bazatati, on a noté toutes ces réclamations. Vous avez adressé des lettres des protestations. Est-ce que vous avez l'impression que l'autorité locale au niveau de Moanda, ou peut-être parce qu'ils disent que c'est au niveau de Kinshasa, qu'ils ont pris en compte vos recommandations, qu'ils ont même accusé réception de vos lettres?
Non, en tout cas, à notre niveau localement, bon, on a saisi les autorités pour les problèmes en question. Et puis, jusque-là, bon, nous attendons une suite là favorable. Mais nous avons, à un moment donné, eu à connaître une baisse là, donc une petite baisse là de la tarification douanière. Alors maintenant, nous voulons à ce que donc nous continuions toujours à demander aux autorités pour qu'ils puissent vraiment baisser dans le sens que nous puissions vraiment travailler, évoluer dans l'activité sans que nous puissions connaître beaucoup de difficultés comme nous en connaissons maintenant.
Vous, vous avez eu une petite baisse des taxes, mais les populations vivant à Moanda ne profitent pas de l'exploitation du pétrole parce que la vie n'est pas aussi belle. Pourquoi vous n'investissez pas à Moanda pour améliorer les conditions de vie? Les routes sont très mauvaises, les populations à Moanda ne voient pas les retombées de cette exploitation.
Bon, vous savez, ici à Moanda, en fait, nous n'avons pas une autre activité par rapport à cette activité que nous entreprenons. L'activité vraiment mère ici à Moanda, qui regorge plusieurs personnes, qui soutient vraiment presque la quasi-totalité de la population, cette activité-là, parce que, en fait, ici, donc, comme à Matadi, nous avons les ports, c'est l'activité principale là-bas. À Boma, nous avons encore les ports, les petits ports, c'est l'activité principale là-bas. Bon, chez nous, ici, l'activité principale, c'est vraiment
le commerce
frontalier. Alors, c'est voilà. Ça vraiment l'activité mère à Moanda.
Okay.
Qui égorge beaucoup de gens. Bon, mais vous voyez la surtaxation.
Monsieur Bazati, on a parlé. Monsieur Bazati.
Ça
monsieur,
notre activité.
Oui, monsieur Bazatati, vous en avez parlé.
Mais nous nous remettons toujours entre les mains de nos pères, donc nos autorités, pour qu'ils puissent chercher des solutions pour nous, pour que nous puissions bien évoluer à vous.
Très bien, merci monsieur Bazatati. Je rappelle que vous êtes président de l'association des importateurs des produits pétroliers à Moanda. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Anticipativement, joyeux Noël et bonne année. Thank you.